Merci d'écouter RFI, il est 5h, ici à Paris 6h, à Istanbul.
Martin Guèze.
Et nous sommes le vendredi 16 mai 2025, ravis de vous accueillir, voici les grands titres de l'actualité internationale. À la une, pas de négociations directes mais des discussions trilatérales à Istanbul, après une journée diplomatique vierge hier en Turquie. Les délégations russes et ukrainiennes sont bien présentes ce vendredi, mais ne se rencontreront pas. Elles s'entretiendront successivement avec les diplomates turcs et américains. Les États-Unis qui nourrissent peu d'espoir concernant ces négociations, alors que les insultes ont fusé hier entre Kiev et Moscou. Gaza, toujours sous les bombes, au moins 120 morts encore ce jeudi, après de nouveaux bombardements israéliens. Le camp de Jabalia a été particulièrement touché ces derniers jours. Jabalia, où notre correspondant a pu se rendre, reportage à suivre. Gaza qui s'invite aussi au Festival de Cannes. En République démocratique du Congo, les sénateurs chargés d'examiner le cas de l'ancien président Joseph Kabila, qui bénéficie pour l'instant du titre de sénateur à vie et d'une immunité pénale. Immunité que les autorités congolaises aimeraient lever. Joseph Kabila, accusé par Kinshasa d'être complice de la rébellion de la FCM23. Enfin, le FC Barcelone, champion d'Espagne, les Catalans, sacrés pour la 28e fois de leur histoire, au nez et à la barbe du Real Madrid, des Madrilènes déjà battus par ce même Barça en finale de la Coupe du Roi. Le ton est monté ce jeudi entre Kiev et Moscou, rendant les négociations d'Istanbul très incertaines. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky pointe une délégation russe factice. « Vous êtes un clown », répond le Kremlin. Une escalade verbale qui a douché les espoirs de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui a dit n'avoir pas de grands espoirs. Ces pourparlers en Turquie prévus hier ont d'abord été reportés à aujourd'hui. Et puis ils ont été modifiés sur la forme. Plus de négociations directes. Place à des réunions trilatérales. Ukrainiens et Russes s'entretiendront successivement avec les Turcs et les Américains. Une rencontre entre les quatre parties paraît de plus en plus improbable. Marine de la Mossonnière.
Toute la journée, les insultes ont fusé entre les deux camps. Finalement, dans la soirée, Marco Rubio a acté ce qui était devenu une évidence au fil des heures. Les pourparlers de paix ne débuteraient pas ce jeudi et sont mal engagés. Les États-Unis n'ont pas de grandes attentes quant à ce qui se passera vendredi, a déclaré le secrétaire d'État américain. Il a reconnu que la délégation russe n'était pas au niveau espéré. Vladimir Poutine a envoyé à sa place un conseiller de second plan. Côté ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui lui non plus n'a pas fait le déplacement. Quant à Donald Trump, il pourrait être de la partie si les discussions avancent bien. Pour l'heure, selon une source diplomatique turque citée par l'AFP, seules sont prévues des réunions tripartites entre les États-Unis, l'Ukraine et la Turquie d'une part, et d'autre part entre la Russie, l'Ukraine et la Turquie. Le chef de la délégation russe a annoncé hier soir qu'il attendrait les représentants de l'Ukraine à 10h. « Nous sommes prêts à travailler », a-t-il affirmé. On y ignore pour l'instant si une réunion à quatre aura lieu.
Marine de la Moissonnière, un échec annoncé des négociations que le Premier ministre britannique Keir Starmer impute directement à Vladimir Poutine. Le président russe doit payer le prix de son refus de la paix, a-t-il déclaré. Les États-Unis, de leur côté, se sont montrés sceptiques. Pour Donald Trump, rien ne se passera tant que Vladimir Poutine et lui ne seront pas ensemble. Donald Trump, qui termine sa tournée dans le Golfe et qui a redit son souhait de prendre le contrôle de la bande de Gaza pour en faire une zone de liberté, selon les mots du président américain. Gaza n'est pas à vendre, lui a rétorqué le Hamas. Gaza, où 120 personnes sont mortes hier sous les bombes israéliennes, c'est ce qu'indique la défense civile palestinienne. Nouveau bilan dramatique dans l'enclave, au moins 53 000 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre 2023, notamment dans le camp de Jabalia, où les frappes de l'État hébreu ont fait des dizaines de morts cette semaine. Jabalia, où s'est rendu notre correspondant Rami Al-Merari, reportage avec Abla Junaidi.
À Jabalia, les tractopelles poussent les décombres des maisons détruites. Le camp de réfugiés a vu disparaître plusieurs membres des familles Al-Najjar, Souhaylem, Moukbel et Al-Koutnan dans la nuit de mardi à mercredi. Ibrahim Salah était un voisin des Moukbel. Sa maison a été en partie touchée.
Nous sommes sains et saufs. On a craint d'être ensevelis nous aussi. Heureusement, malgré la terreur, les gens nous ont aidés. Les voisins sont venus ensemble et nous ont secourus. Ils ont aussi aidé à sortir les morts.
Plusieurs habitants ont parlé de ceintures de feu déferlant sur le camp. Ertima Djibril décrit cette nuit d'horreur.
On dormait tous paisiblement, je vous jure. Il était 1h du matin, tout le monde dormait. Et tout à coup, les bombardements sont arrivés de partout, partout la mort. Et les secours ne sont arrivés qu'après 3 longues heures. Arrivé à l'hôpital, impossible de se faire soigner. On vous met par terre. J'ai 8 points de suture après 2 heures d'attente.
Ces attaques sur Jabalia, les plus dévastatrices cette nuit-là, ont essentiellement fait des victimes civiles, dont beaucoup de femmes et d'enfants.
Les victimes de la guerre à Gaza, auxquelles le Festival de Cannes a rendu hommage hier à l'occasion de la projection du film Put Your Soul on Your Hand. La réalisatrice iranienne Sepideh Farsi nous raconte l'enclave à travers les yeux de la photojournaliste gazaoui Fatima Hassouna, tuée dans une frappe israélienne le 16 avril dernier. Sepideh Farsi, qui s'est entretenue avec Sophie Torlotin, entretien à écouter et à lire sur notre site internet RFI.fr et sur notre application Pure Radio. RFI 4h06 à Kinshasa, direction la République démocratique du Congo, où le cas de Joseph Kabila était examiné au Sénat. L'ancien président congolais, en poste de 2001 à 2018, a le titre de sénateur à vie et bénéficie à ce titre d'une immunité pénale, immunité que les sénateurs pourraient lever. Ils étudient en tout cas ce jeudi une demande en ce sens, puisque les autorités congolaises accusent l'ex-chef d'État d'être complice de la rébellion de la FCM-23 qui a pris le contrôle d'une partie de l'Est de la RDC. Les débats au Sénat se déroulent à huis clos et une commission a finalement été mise en place pour examiner les charges qui pèsent sur Joseph Kabila. Commission qui a 72 heures pour remettre son rapport, Pauline Azidi.
L'ancien président est soupçonné par la justice militaire de participation à un mouvement insurrectionnel, trahison et intelligence avec l'ennemi et participation à des crimes de guerre. Les preuves mises en avant sont des prises de parole dans les médias où il évoque la FCM-23, un témoignage d'un proche de Corneille Nangaa, ce dernier est le chef du mouvement rebelle, Erin Koumba, en prison ici à Kinshasa, aurait rapporté des propos compromettants de l'ancien président. Enfin, il y a la présence présumée de Joseph Kabila à Goma, ville sous le contrôle des rebelles. Cette absence de décision de la part du Sénat, qui met donc d'abord en place une commission, n'est pas une surprise. C'était une option privilégiée depuis hier pour prolonger les débats. Il faut rappeler que c'est un dossier complexe puisque Joseph Kabila est à la fois sénateur à vie, mais aussi ancien président de la République. Or, la levée de l'immunité pour un ancien chef de l'État nécessite une autorisation du Congrès, c'est-à-dire une réunion conjointe des deux chambres du Parlement. Pour certains sénateurs, la Chambre haute n'est pas compétente pour lever cette immunité. Pour d'autres, c'est dans ses prérogatives. C'est en tous les cas ce que la commission devra essayer de trancher. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Au Tchad, au moins 41 personnes sont mortes à la frontière camerounaise. Cela s'est produit dans le village de Mandakao, dans la province du Logon occidental. Près de 80 cases ont été incendiées, à environ 80 km de Moundou. Un conflit intercommunautaire serait à l'origine des affrontements. Une enquête a été ouverte pour élucider l'affaire. L'actualité africaine, on y revient dans une vingtaine de minutes. Première édition d'Afrique Matin, ce sera avec Vincent Dublanche. L'actualité en France, à présent, l'Assemblée nationale a approuvé à une très large majorité une proposition de loi visant à lutter contre la mortalité infantile. Proposition qui instaure notamment un moratoire de 3 ans sur les fermetures de maternité. Et ce alors que la France a dégringolé au classement européen. L'Hexagone, seulement 23e sur 27 concernant la mortalité infantile sur le vieux continent. On termine avec ces maladies tropicales qui pourraient devenir endémiques en Europe, comme le chikungunya et la dengue. Aujourd'hui, 4 milliards de personnes dans 129 pays sont exposées à ce risque. Et pour la première fois, une étude publiée par The Lancet Planetary Health ce jeudi analyse les liens entre le risque d'épidémie de dengue et de chikungunya en Europe avec la démographie et le réchauffement climatique. Elissa Mokadim.
L'augmentation des températures accélère le développement des moustiques tigres et favorise leur survie. Résultat, cet insecte progresse vers le nord de l'Europe depuis son arrivée sur le continent en 1990. La chaleur augmente aussi la vitesse de multiplication du virus dans l'insecte. Depuis 2010, la fréquence et l'ampleur des foyers de dengue et de chikungunya n'ont fait qu'augmenter. Rien qu'en 2024, l'Europe a compté 304 cas de dengue. C'est plus que tous les cas recensés sur les 15 années précédentes. Des foyers sont apparus en France, en Espagne, en Italie et en Croatie. D'après les chercheurs, à chaque degré supplémentaire, surtout pendant l'été, le risque d'épidémie augmente nettement. Mais il y a d'autres facteurs, l'urbanisation et le déplacement de la population. Si rien ne change, en 2060, le risque d'épidémie pourrait être 5 fois plus élevé en Europe. Et l'étude présente des limites. Les régions où les dépenses de santé sont moins élevées détectent moins de cas de contamination. Pour réduire les risques, les chercheurs appellent à renforcer la surveillance, les systèmes d'alerte et la lutte contre ce moustique.
Explication signée, Elissa Mokadim. Enfin, le Barça, haut la main, grâce à un nouveau bijou de Lamine Yamal. Le FC Barcelone a fait mal à son voisin l'Espagnol. Victoire 2-0 dans le derby. Un succès qui assomme le championnat. Voilà les Catalans, sacrés champions d'Espagne pour la 28e fois de leur histoire. À 2 journées de la fin, les Barcelonais comptent 7 points d'avance sur le Real Madrid. RFI 5h10, ici à Paris.